Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Toujours un plaisir de retrouver Célia Morès sur Nutri Radio pour s'élever et en savoir plus sur les mécanismes de notre cerveau. Comment fonctionne notre cerveau? En plus, là, vous avez démarré une partie passionnante hein, sur son fonctionnement. Vraiment, là, on est dans le concret. On va disséquer tout cela. Et aujourd'hui, Célia, vous avez décidé de nous parler de la transmission de l'influx nerveux. Je vous propose, pour démarrer...
Écoutez, totalement. C'est totalement ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler de la transmission de l'influx nerveux? Parce que j'estime que finalement, c'est important de comprendre comment la neurophysiologie du cerveau fonctionne, parce que c'est cette neurophysiologie, figurez-vous, chers auditeurs et cher Fabrice, qui est à la base de nos comportements. Donc, qu'est-ce que la transmission nerveuse? Parce que finalement, pour que les neurones fonctionnent, il faut qu'il y ait une connexion entre eux. C'est comme lorsqu'on est connecté. Lorsqu'on est connecté ensemble, Fabrice, quand on fait des enregistrements justement pour Nutri Radio, qu'on est ensemble, parfois on a besoin d'une connexion Internet. Lorsqu'on fait des webinaires, on a besoin d'une connexion Internet. Ben, les neurones, c'est pareil. Seuls, ils ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de communication. Il faut transmettre l'information, donner cette information. Donc, on va parler de transmission nerveuse. C'est quoi? Vous savez que les neurones sont des cellules excitables. C'est-à-dire qu'il y a une certaine électricité qui se propage au niveau de ces neurones-là. En fait, ce qui se passe, chers auditeurs, c'est qu'entre le milieu intracellulaire du neurone, donc à l'intérieur du neurone lui-même, et son milieu extracellulaire, donc juste à l'extérieur de la cellule, on a des ions qui sont chargés positivement, négativement, comme du calcium, du sodium, du Na+, du chlore, du potassium, etc., etc. Et ce qui va se passer, c'est que la transmission nerveuse, en fait, ça va être quoi? Ça va être une inversion de la polarité des ions. C'est-à-dire qu'on va avoir une entrée d'ion dans la cellule du neurone, ce qui va modifier ce qu'on appelle son activité électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le potentiel de repos, l'activité basale électrique d'un neurone, est de l'ordre de moins 70 000 volts. Moins 70 000 volts, c'est l'activité basale. Il faut savoir que lorsque le neurone est stimulé, notamment lorsqu'il va y avoir, on le verra tout à l'heure, libération de neurotransmetteurs, lorsque le neurone est stimulé, il va y avoir inversion de la polarité avec entrée d'ions dans la cellule, ce qui va modifier cette activité, ce nombre de millivolts. Et ce qui va se passer, c'est que notamment, pour qu'il y ait transmission de l'influx nerveux, il faut que ça dépasse un certain seuil. C'est-à-dire, chers auditeurs, que si il y a une petite stimulation, mais qu'elle n'est pas assez importante, ça ne fera rien, il n'y aura pas d'activité neuronale. Au-delà d'un certain seuil, il va y avoir une activité neuronale, transmission de l'information nerveuse, c'est ce qu'on appelle le potentiel d'action. Donc, c'est quoi le potentiel d'action? Il va pouvoir s'initier à partir du moment où cette inversion de polarité, si je puis dire, où il y va avoir modification de l'activité électrique, passe à moins 40 millivolts. C'est-à-dire qu'au repos, on est à moins 70 millivolts. Moins 70 millivolts. Lorsqu'on passe à moins 40 millivolts, il y a un potentiel d'action qui est émis et qui va pouvoir monter à 40 millivolts. Et à ce moment-là, c'est ça, il va y avoir transmission de l'information nerveuse d'un neurone à un autre, via quoi? Via l'entrée de sodium dans la cellule et ensuite sortie de potassium. Et c'est ça qui permet la transmission de l'influx nerveux. C'est ça qui permet de mesurer aussi l'activité électrique. D'ailleurs, chers auditeurs, lorsque vous faites des électroencéphalogrammes, ce n'est autre que la mesure de l'activité électrique de votre cerveau, tout simplement.
C'est pour ça que quand il est plat, c'est pas bon signe.
Quand il est plat, c'est pas bon signe du tout, du tout, du tout, du tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus de transmission électrique et ça veut dire que c'est une mort cérébrale.
Pour ça, est-ce que d'ailleurs, c'est... Oui, Célia?
Oui, Fabrice?
Non, je disais, est-ce que l'expression « de tension », ça vient un petit peu de là aussi?
De tension, je ne suis pas sûre. De tension, c'est peut-être plutôt par rapport à la tension, effectivement, du fait que lorsqu'on est en hypotension, on est un petit peu, alors pas apathique, c'est pas le terme, mais on a du mal à être stimulé. Parce que l'activité cérébrale, même à de tension, je pense qu'elle est encore bonne. Mais pour le petit exemple que je voulais donner, chers auditeurs, chers Fabrice, Vous connaissez ce poisson japonais si cher mais si dangereux à consommer où il y a des morts ?
Pas du tout.
Ce fameux poisson qu'on consomme au Japon. Je ne connais plus le nom du poisson, hein, je vous avoue.
D'accord. Ah bah alors là, merci Célia.
Mais en tous les cas, non, mais c'est ce fameux. Ah, j'arrive jamais à retenir le nom de poisson, mais je retiens le nom de la substance qui est toxique. C'est la tétrodotoxine. Et c'est quoi ce poisson qu'est-ce qu'elle fait, cette tétrodotoxine ?
Du fougou.
C'est qu'elle bleue. Du fougou, voilà. Et bien, lorsqu'on consomme du fougou et qu'il est mal préparé et qu'on ingère cette substance toxique, pourquoi est-ce qu'on meurt ? Tout simplement parce que la substance toxique va bloquer l'activité des canaux sodium. Donc, elle va empêcher l'entrée de sodium dans le neurone. Donc, elle va bloquer l'activité cérébrale. Donc, du coup, on va se retrouver avec une activité cérébrale, un électroencéphalogramme plein, puisque les neurones ne seront plus excitables. Et si les neurones ne sont plus excitables, chers auditeurs, c'est la mort, tout simplement. Voilà pour comment fonctionne cette toxine, pourquoi cela conduit à la mort, d'où la dangerosité, évidemment, de la consommation de ce type de poisson lorsqu'il est mal préparé.
Ah oui, moi, je pensais que c'était une légende. Mais en fait, non, ce fougou, il est mortel.
Non. Bon, il est réellement mortel, oui.
Bien, ah bah écoutez, vaut mieux ne pas s'y risquer. Je sais pas, vous avez déjà mangé, vous ?
Personnellement, non, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je n'aime pas prendre des risques avec ma santé, même si le cuisinier peut être quelqu'un qui sait le préparer. On n'est jamais à l'abri d'une erreur. Et puis, en plus, je crois que c'est très, très cher à consommer. En plus, les gens qui payent très cher pour consommer ce type de poisson, parce que, évidemment, et d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a même pas en France. Hein. Je pense que c'est qu'au Japon qu'on peut en consommer. Il ne me semble pas qu'il y ait des restaurants en France qui en servent.
Ouais, vraiment que ce soit vraiment très, très, très bon. Mais effectivement, bon, on peut se dire qu'on s'en passe. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.
C'est Célia Morès sur Nutri Radio pour nous parler aujourd'hui de la transmission de l'influx nerveux. Vous êtes revenu tout à l'heure sur ce qu'était la transmission nerveuse. Vous nous avez découragé à manger du fougou, ce poisson japonais qui peut être mortel, et vous avez bien raison. Et maintenant, on va parler des synapses.
Totalement. Alors, pourquoi, chers auditeurs, nous allons parler des synapses ? Tout simplement parce que la communication entre deux neurones se fait via des synapses. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que les neurones communiquent entre eux, ils ne se touchent pas. Ils vont communiquer via une fente synaptique, c'est ce qu'on appelle une fente synaptique. Il va y avoir un espace entre le neurone présynaptique, donc le premier neurone, le neurone A, et le neurone postsynaptique, le neurone B. Et dans cette fente synaptique, on va voir qu'il va y avoir relargage de ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, mais nous y reviendrons. Donc cette synapse, imaginez un petit peu deux joueurs de basket. Le joueur de basket A, qui va faire une passe de son ballon au joueur de basket B. Vous êtes d'accord qu'il ne le lui donne pas directement dans les mains, les joueurs ne se touchent pas. Ils se font une passe à distance, plus ou moins rapprochée, certes pour les joueurs. Les synapses, c'est assez rapproché, mais ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir quoi ? Dans cette synapse, c'est la région entre deux neurones, et cette région entre deux neurones est très importante pour la transmission de l'information nerveuse aussi. Donc, on va voir qu'on a plusieurs types de synapses. Vous avez la synapse qui se fait entre un neurone présynaptique et le corps cellulaire du neurone. Vous savez, nous avons vu dans une précédente émission, chers auditeurs, que le neurone était constitué de trois parties. On va la faire grosso modo trois parties importantes. Le corps cellulaire, l'axone et les dendrites. Donc, on avait vu que l'axone, c'est d'ailleurs lui qui va transmettre l'information nerveuse de neurone en neurone. Cet axone peut faire synapse avec soit le corps cellulaire d'un autre neurone, soit éventuellement avec l'axone en bas de l'axone d'un autre neurone, ou alors avec les dendrites d'un autre neurone. Et l'information va passer de synapse en synapse pour que l'on puisse réfléchir. Lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on mémorise quelque chose, c'est tout simplement qu'au sein de cette synapse, on va avoir, nous y reviendrons en troisième partie, dans une autre émission, sur comment fonctionnent les neurotransmetteurs, mais en tous les cas, on va avoir, par exemple, relargage d'un neurotransmetteur qui est l'acétylcholine. Et ben, c'est dans cette fente-là que cela va se passer. Donc, on va voir en troisième partie d'émission, chers auditeurs, comment se fait cette transmission synaptique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la synapse, c'est important. Ça permet aux neurones de communiquer entre eux. C'est une espèce de vide entre deux neurones, un espace entre deux neurones. Imaginez deux joueurs de basket. En train de se faire une passe. Oui, Fabrice.
Non, c'est presque la même chose. Hein. Baseball, basket, Célia, bon.
Ouais, bah, basket, on peut lancer une balle. Baseball, c'est un peu plus compliqué. Il y a quand même une batte. Et il faut savoir qu'au sein de donc, cette synapse, le neurone présynaptique va avoir, donc le premier neurone, va avoir une espèce de renflement. Et à l'intérieur, on aura des vésicules remplies. De quoi ? Remplies de neurotransmetteurs qui vont évidemment être relargués, mais nous y reviendrons, dans cet espace pour ensuite être récupérés par l'autre neurone qui est le neurone numéro 2. Il faut savoir que les synapses, Fabrice et chers auditeurs, nous en avons de deux types. Les synapses les plus communes chez l'homme, finalement, c'est les synapses chimiques avec relargage des neurotransmetteurs. Mais on a aussi des synapses plus simples, électriques, avec juste passage de sodium entre deux neurones, donc de Na+. Alors, ces synapses sont généralement plus fréquentes chez les invertébrés, mais elles sont fréquentes aussi chez l'homme, on les retrouve chez l'homme, lorsqu'il s'agit d'avoir finalement une transmission électrique rapide et très précise. C'est notamment le cas pour notre fréquence cardiaque. C'est-à-dire le cœur, ça doit être précis, rapide. Le relargage des neurotransmetteurs prend un peu plus de temps. Donc, au niveau de tout ce qui est cardiaque, hein, le muscle cardiaque, c'est pas enfin, le cœur, c'est un muscle, donc c'est neuromusculaire, on va dire, ça va passer par une synapse qui est électrique et non pas chimique. Il y a du chimique aussi, bien évidemment, puisqu'au niveau du cœur, on a aussi libération d'acétylcholine, mais effectivement, on a à ce niveau-là, on va avoir libération aussi de sodium pour que ce soit rapide, pour que ce soit encore plus fin. Mais sinon, nous verrons comment se fait la transmission synaptique avec les neurotransmetteurs en troisième partie d'émission pour vous expliquer leur importance et pourquoi il est important, effectivement, que cette synaptogénèse se fasse. Et donc, nous l'avons vu dans certaines émissions, chers auditeurs, l'importance de l'alimentation, parce que justement, plus on aura de la synaptogénèse, c'est-à-dire plus on aura la possibilité que deux neurones dialoguent entre eux et que le message nerveux passe, et donc on aura un cerveau qui fonctionne correctement. Donc, pour vous expliquer que toute physiologie, que la physiologie est à la base de nos comportements.
Célia Morez sur Nutri Radio. Il y a qu'ici qu'on peut entendre des émissions de ce niveau. Donc, restez, on se lance des fleurs, mais c'est important quand même. Ouais, on écoute, on se dit, ah ben oui. Après, ce qui est bien aussi, c'est de réécouter le podcast qui sera d'ailleurs disponible à partir de 18h ce dimanche. Dernière pause et on parle donc de cette transmission synaptique. C'est juste après ceci.
La sphère neuro. Célia Morez sur Nutri Radio.
Célia Morez sur Nutri Radio qui joue et au baseball et au basketball, qui nous parle donc de la transmission de l'influx nerveux. Dernière partie où l'on parle donc, comme annoncé, de la transmission synaptique. Comment ça fonctionne tout cela ?
Alors, totalement. Alors, c'est-à-dire, comme je l'ai dit en deuxième partie d'émission, dans la synapse, on va avoir relargage de ces neurotransmetteurs. Donc, ce qu'il faut savoir, pour que les neurotransmetteurs aillent dans la fente synaptique, il faut qu'ils sortent du neurone. C'est ce qu'on appelle l'exocytose. Et pour qu'il y ait une exocytose, on va avoir entrée de calcium dans la cellule qui va permettre cette exocytose. Une fois que ce neurotransmetteur est relargué dans cette fente synaptique, il va alors se fixer sur un récepteur sur le neurone post-synaptique. Donc, imaginez toujours vos deux joueurs de basket. Le basketteur numéro 1 a lancé la balle. Donc, c'est comme le neurone numéro 1 qui a lancé son neurotransmetteur. Et le basketteur numéro 2 va récupérer la balle, le ballon entre les mains, pour pouvoir marquer un panier. Et c'est exactement ce qui va se passer avec le neurone numéro 2, le neurone post-synaptique. Cela se fait par entrée de calcium dans la cellule. C'est relargué, c'est récupéré sur un récepteur. Une fois que le neurotransmetteur est sur son récepteur, ça va permettre quoi, chers auditeurs, que l'influx nerveux puisse avoir lieu et de passer le message. Donc, évidemment, chaque neurotransmetteur a un rôle. C'est ce que nous verrons dans une prochaine émission. On en avait déjà un petit peu parlé. L'acétylcholine, c'est la mémoire, les apprentissages, etc. Donc, on voit bien donc de l'importance, effectivement, du relargage de ces neurotransmetteurs et de pouvoir avoir ces neurotransmetteurs. Parce que les neurotransmetteurs, souvenez-vous, chers auditeurs, de ce que nous avions dit dans une précédente émission, ils sont synthétisés à partir d'acides aminés. Donc, si vous n'apportez pas dans l'alimentation ce qu'il faut en termes d'acides aminés à ce niveau-là, on ne peut pas avoir de synthèse de neurotransmetteurs. Donc, ils ne pourront pas être relargués dans la fente synaptique. Ce ne sera pas dû à quoi ? À un problème de transmission nerveuse. Ce sera dû tout simplement que vous n'avez pas pu synthétiser la matière première pour qu'il y ait relargage dans cette fente synaptique. Point important. Second point important, évidemment, quand il va y avoir transmission de l'information avec les neurotransmetteurs qui vont se fixer, elles peuvent être excitatrices ou inhibitrices. Parce que forcément, on a des neurones qui sont excitateurs. Par exemple, les neurones dopaminergiques sont des neurones plutôt excitateurs. Mais ensuite, on a des neurones qui sont plutôt inhibiteurs, qui vont calmer le jeu. Parce que le but, effectivement, c'est que l'excitabilité neuronale ne perdure pas dans le temps. Notamment les neurones GABAergiques, le GABA, GABAergiques, sont des neurones inhibiteurs. Et c'est ce qui permet de calmer certains neurones. D'ailleurs, au niveau de la transmission dopaminergique, la dopamine, c'est le neurotransmetteur impliqué dans la motivation à faire quelque chose, le plaisir que l'on prend à faire quelque chose. On prend du plaisir, vous prenez du plaisir, chers auditeurs, à écouter la sphère neuro sur Nutri Radio et à écouter toutes les bonnes émissions sur Nutri Radio. Vous avez relargage de la dopamine. C'est logique, c'est normal. Mais à un moment donné, il faut que cette dopamine, ce relargage diminue parce que sinon, ça va être trop excitable et ça peut conduire à une addiction, ce qui n'est pas le but parce que trop de dopamine, c'est pas bon non plus pour le cerveau. Il va se passer quoi ? Pour diminuer cette activité cérébrale, on va avoir d'autres neurones comme les neurones GABAergiques, inhibiteurs qui vont permettre évidemment de faire diminuer cette activité électrique dopaminergique et de faire revenir le cerveau à son mode de fonctionnement, on va dire, allez, on va prendre un gros raccourci basal. Point important, ce qu'il faut savoir aussi, chers auditeurs, c'est que pour que ça fonctionne, excitation ou inhibition, c'est une histoire de sommation, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va être à un moment donné plus fort que l'autre. Ça dépendra des situations. Et heureusement que cela fonctionne comme ça, mais quand il n'y a pas de problème de transmission synaptique, tout se passe très bien. Ce qu'il faut savoir aussi, d'autre qui est important, c'est qu'évidemment, quand votre neurotransmetteur a été relargué dans la fente synaptique et qu'il va être récupéré par les récepteurs, il va falloir jeter, évacuer tout le reste qui va rester dans la fente synaptique. Et cela va se faire par trois moyens. Soit il va y avoir des enzymes qui vont venir détruire, soit il va y avoir évidemment les astrocytes dont nous avions parlé dans une émission précédente qui va permettre d'éliminer les déchets, soit les restes de neurotransmetteurs vont être recaptés par le neurone présynaptique, tout simplement. Finalement, peu importe les mécanismes, ce qu'il faut savoir, c'est que si tout n'a pas été utilisé, parce que tout ne sera probablement pas utilisé, au niveau de la fente synaptique, ce qui va rester va être évidemment évacué, éliminé. D'ailleurs, chers auditeurs, quand on souffre de dépression et qu'on prend des antidépresseurs, notamment des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Donc, je vais en citer quelques-uns, mais qui sont connus. Le Prozac, par exemple, le Séroplex, le Séroprame, etc. Ça fait quoi ? Ça inhibe la recapture de la sérotonine pour prolonger l'effet de la sérotonine, puisque les personnes qui sont atteintes de dépression manquent de sérotonine. Ça, c'est un point important. Mais aussi, l'acétylcholine. Est-ce que vous avez tous entendu parler de ces fameux gaz, vous savez, qui sont neurologiques, quand ils sont, par exemple, lors d'une guerre, si un avion passe et balance ce type de gaz, c'est la mort des gens, les gens tombent, on voit ça dans les films, comme des mouches, et sont morts. Est-ce que vous savez d'où ça vient ?
Je ne sais pas déjà quel film vous regardez.
C'est l'acétylcholine. écoutez, c'est l'acétylcholine qui est bloquée. D'accord. C'est-à-dire que l'acétylcholine, qui est impliquée en dehors d'être impliquée dans la mémoire, les apprentissages ou quoi, elle est impliquée aussi dans tout ce qui est neuromusculaire. Donc, ça va faire quoi ? Ça va bloquer l'acétylcholine. L'acétylcholine ne pourra plus se fixer sur ses récepteurs, ne pourra plus faire son travail. Du coup, plus de transmission synaptique, plus de transmission neuromusculaire. À ce moment-là, c'est la mort. C'est cela pour ce type de gaz, mais c'est aussi cela pour le curare. C'est aussi cela pour le venin de la veuve noire, vous savez, cette espèce d'araignée, je crois qu'il y a un petit point rouge dessus. C'est horrible comme photo quand on est agoraphobe comme moi, arachnophobe comme moi. Ensuite, il va y avoir le cobra aussi. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on meurt de ces venins-là ? Pourquoi est-ce qu'on en meurt ? Tout simplement parce que ça bloque la transmission cholinergique de l'acétylcholine. L'acétylcholine ne se fixe plus et donc, évidemment, c'est la mort qui est inévitable. Et autre point aussi qui est intéressant, on a tous entendu parler de l'ecstasy. Eh bien, l'ecstasy, figurez-vous que pendant un temps, ça a été utilisé pour justement agir sur certains neurotransmetteurs, et notamment, je vais vous dire exactement lequel, ça bloquait la recapture de la sérotonine. Donc, ça avait pu être impliqué notamment pour soigner, alors pas forcément pour les dépressions, mais c'était plutôt pour tout ce qui était comportement alimentaire, etc. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des conséquences tellement... importante de la prise, et les gens ressentaient des petites choses bizarres, enfin, avaient mis dans les contre-indications, mais les effets indésirables, tels qu'ils ont, ils l'ont retiré du marché. Mais là aussi, ça agit, effectivement, tout simplement, sur la transmission synaptique et sur l'efficacité des neurotransmetteurs, soit en mimant ces neurotransmetteurs, donc en potentialisant l'effet de cette transmission synaptique, en l'augmentant, soit en l'inhibant. Et s'il n'y a plus de transmission, évidemment, ben, on l'a vu comme pour l'acétylcholine, chers auditeurs et cher Fabrice, ça peut être évidemment la mort. Tout simplement.
Waouh, c'est incroyable parce qu'on est en train de se dire, mais tout est relié à ce cerveau-là.
Ah, totalement, oui.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Mais franchement, j'ai plein de questions qui me viennent en tête. Par exemple, sur les... Vous parliez de ces... poison de ces araignées, la veuve noire par exemple, mais c'est-à-dire que les antipoisons, ils sont faits à base du poison même, ou justement pour aller empêcher ce blocage de l'acétylcholine?
Alors, je ne pourrais pas dire, je ne me suis pas renseignée sur les antipoisons, parce que le problème, c'est que généralement, quand on nous donne un antipoison, ou en fait plutôt un antidote lorsqu'on s'est fait piquer, etc., je ne sais pas exactement comment il fonctionne. Mais on pourrait imaginer que ça va, en tous les cas, peut-être bloquer, parce que comme c'est après, je suppose que ça... Alors, je pense qu'il y a un laps de temps dans lequel on va pouvoir agir. Mais c'est vrai que les antipoisons, je pense que ça dépend desquels, ça ne va pas forcément avoir le même effet. Pour certaines choses, je suppose qu'on peut les prendre avant. Pour d'autres, bon, par exemple, comme les gaz toxiques, ben, je pense que je ne suis pas sûre qu'il existe un antidote à prendre avant. Et pour tout ce qui est curare, là aussi, il n'y a pas d'antidote, je pense. Tout ce qui est toxines botuliques, c'était le cas aussi. Les toxines botuliques, effectivement, vont conduire à la mort. Et après, tout ce qui est en revanche venin de la veuve noire, etc., et cobra, il doit y avoir quand même, je pense, un laps de temps. Moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'on avait un laps de temps sur lequel, très court, sur lequel on pouvait agir pour éviter justement que ça devienne définitif, parce qu'il doit y avoir le temps que ça se fasse. Mais au niveau de l'antidote même, Fabrice, je vous dis, je suis pas certaine, j'ai pas trouvé en fait. En
bon,
tous les cas.
Non, mais c'est parce que je prépare un petit séjour là dans la jungle. Mais sinon, quand on voit tout ce qui est délétère et tout ce qui peut causer des blocages, la mort et avoir des conséquences incroyables négativement, l'inverse est vrai aussi. Je me dis, mais c'est quoi les produits qui, au contraire, vont aller nous. Vous savez, enfin, ça, je veux pas rentrer dans des trucs un peu stupéfiants ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a. Vous croyez par exemple, vous, à l'efficacité des nootropiques, vous savez, ces actifs-là qui vont permettre de stimuler et booster les capacités cognitives et le fonctionnement du cerveau?
Alors oui, non. C'est-à-dire qu'en fait, je sais que c'est donné, hein, ces nootropiques. Je ne suis pas certaine que ce ne soit pas un effet placebo. Je pense qu'un neurologue serait plus à même de répondre à la question que moi. Ce que je sais en revanche, c'est que, exemple, au niveau de l'acétylcholine, donc c'est le neurotransmetteur impliqué dans la mémoire et les apprentissages, ce qui est un agoniste de l'acétylcholine, un agoniste, c'est-à-dire que c'est à peu près la même molécule. Donc en fait, c'est-à-dire que ça ressemble au niveau moléculaire, on va dire que c'est la même chose. Il y a une analogie entre les deux, c'est la nicotine. Pourquoi ? Parce que votre acétylcholine, chers auditeurs, va se fixer notamment, peut se fixer sur deux types de récepteurs, les récepteurs muscariniques ou les récepteurs nicotinergique, donc à nicotine. Et on sait que la nicotine pourrait augmenter certaines capacités cognitives. Donc pendant un temps, il était même question, justement pour répondre à votre question Fabrice, de donner de la nicotine, enfin, alors évidemment pas une cigarette ni rien, de la nicotine, je dis bien de la nicotine, justement aux personnes atteintes d'Alzheimer pour rebooster leur mémorisation. D'après les dernières études, les effets, en tous les cas à l'époque, celles que j'avais eues en main, étaient peu probants. Mais voilà, là, ça pourrait fonctionner parce qu'on va donner de manière synthétique de l'acétylcholine. On va donner aussi, parfois on peut donner, on y viendra dans l'émission de la semaine prochaine, de la noradrénaline, etc. Notamment les amphétamines, ça va évidemment prolonger l'effet de la noradrénaline, de l'adrénaline, éventuellement, donc booster la vigilance et l'attention. Sauf qu'évidemment, ce type de médicament, ce type de substance est très néfaste pour la santé. Après, tout ce qui est nootropique que l'on donne plus facilement, moi, je sais pas jusqu'à quel point c'est réellement efficace.
Bien.
Voilà.
Bien.
Il faut demander plus à un neurologue. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ne sont pas du tout d'accord sur le sujet. En tous les cas, des boosters de performance qui permettent de mieux apprendre en faisant moins d'efforts, qui, comme on trouve dans les compléments alimentaires, j'allais dire en pharmacie ou au supermarché, en tous les cas, ces compléments alimentaires fonctionnent peu et généralement d'ailleurs sont faits à partir de vitamines, etc. Donc ça veut dire que par l'alimentation, on va booster son cerveau très correctement. Mais les médicaments miracles n'existent pas, ça n'existe pas, ou alors certains ont pu être créés et comme à m'a dit un neurologue avec lequel j'ai été en contact et avec lequel j'avais fait une conférence justement sur la mémoire, ils sont évidemment très dangereux. Donc à ce moment-là, on ne les donne pas parce que les conséquences, les effets indésirables sont trop importants par rapport aux bénéfices que cela pourrait être de prendre ce type de produit.
Merci beaucoup Célia, on va se retrouver et c'est pour ça qu'on est content parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore et on se retrouve chaque semaine. Donc rendez-vous la semaine prochaine Célia pour une autre émission, La Sphère Neuro sur Nutri Radio. Au revoir Célia.
Bon, à la semaine prochaine Fabrice. Au revoir Fabrice.
Cette émission, je vous le répète, elle est disponible en podcast si vous voulez l'écouter dans son intégralité à partir de dimanche 18h. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
La Sphère Neuro, Célia Morès sur Nutri Radio.